Le journal, Benoît Bouscarel.
Bonsoir. Donald Trump, très offensif ce soir dans un discours à la Maison-Blanche. Il cible l'Iran et, je cite, son régime fanatique et annonce qu'il ne certifie plus l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien signé à Vienne. Il se réserve même le droit de le dénoncer unilatéralement à l'avenir. Les réactions internationales à cette déclaration sont très nombreuses. Le président français notamment indique ce soir qu'il envisage de se rendre à Téhéran dans les prochaines semaines à l'invitation de son homologue Hassan Rouhani. Dans ce journal, la correspondance de Grégory Phillips depuis Washington et puis l'analyse de François Hesbourg de la Fondation de la Recherche Stratégique qui est l'invité de ce journal. Dans l'actualité également ce soir, l'élection d'Audrey Azoulay à la direction générale de l'UNESCO. L'ancienne ministre française de la Culture a été élue à 2 voix près seulement face à un candidat qatari. Son portrait à suivre par Nadine Epstein. Et puis la fin de la 2e semaine d'audience au procès d'Abdelkader Merah, la preuve de la complicité du frère aîné de Mohamed Merah dans les attentats de 2012 à Toulouse et Montauban n'est toujours pas faite. C'est ce que nous expliquera Florence Turm. Donald Trump ne pouvait pas reculer après avoir de si longs mois durant critiqué l'accord sur le nucléaire iranien. Le président américain a donc ce soir, comme c'était prévisible, décertifié l'accord de Vienne signé en 2015, sans pour autant annoncer pour l'instant un retrait pur et simple du traité. Les explications depuis Washington de Grégory Phillips.
Le discours prononcé depuis la Maison-Blanche est très dur à l'égard du régime iranien, qualifié d'état voyou, de régime fanatique. Malgré tout, les États-Unis ne déchire pas complètement l'accord signé en 2015, mais Donald Trump refuse de le certifier. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela veut dire que tous les 3 mois, le président des États-Unis normalement doit certifier que le régime iranien se conforme bien aux engagements pris sur le contrôle de son programme nucléaire. Depuis le début de son mandat, Trump l'a certifié 2 fois cet accord. Là, il refuse de le faire et il renvoie le dossier au Congrès américain, le Congrès qui aura 60 jours pour décider s'il impose de nouvelles sanctions à Téhéran. Précision importante de Trump, à tout moment, il peut décider d'annuler l'accord s'il a la preuve que l'Iran progresse vers l'arme nucléaire. Le président américain annonce aussi de nouvelles sanctions à l'égard des gardiens de la Révolution, accusés de promouvoir et de soutenir le terrorisme à travers le monde.
Grégory Phillips, parmi les réactions très nombreuses ce soir à ce discours de Donald Trump, celle de Federica Mogherini. Pour la chef de la diplomatie européenne, l'accord sur le programme nucléaire iranien ne peut pas être remis en question par un seul pays. Par ailleurs, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se disent conjointement préoccupés par les implications de cette décision américaine. Même son de cloche à Moscou, où le ministère russe des Affaires étrangères dénonce la stratégie du président américain, la qualifiant d'agressive et menaçante. À l'inverse, Riyad salue l'annonce de Donald Trump. L'Arabie Saoudite réitère dans un communiqué son engagement à travailler avec ses partenaires aux États-Unis et dans le monde pour faire face aux dangers que font peser les politiques iraniennes sur la paix et la sécurité mondiale. Et puis, autre conséquence ce soir, plus terre à terre, la hausse du cours du pétrole à New York. Le baril de brut a gagné ce soir 85 cents à un peu plus de 51 $. Invité de ce journal, François Hesbourg, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Est-ce qu'on a là, selon vous, avec cette décertification, un nouvel exemple, une nouvelle illustration de la politique du retrait que semble suivre Donald Trump depuis plusieurs mois dans sa politique étrangère ? L'expression vient aujourd'hui des États-Unis ?
Non, je ne suis pas sûr que cette expression qui a été employée par un politiste américain aujourd'hui, Richard Haass, soit appropriée à ce que Donald Trump a indiqué ce soir. C'est pas simplement la décertification, c'est aussi la menace de la destruction de l'accord avec l'Iran, et pour le cas où les alliés des États-Unis et le Congrès refuseraient de se joindre aux États-Unis pour amener l'Iran à accepter de changer les termes de l'accord. Donc on a un Donald Trump qui est engagé dans le sujet, il n'est pas du tout en train de se retirer du sujet par rapport à l'accord, il est plutôt dans la peau de quelqu'un qui veut casser l'accord plutôt que d'opérer un simple retrait, si je puis dire.
Il menace de lui-même, en tant que président des États-Unis, faire exploser finalement cet accord de Vienne.
Absolument. C'est pour moi, la déclaration de M. Trump était plus dure et plus inquiétante que ce à quoi je m'attendais. Il n'était pas en train d'opérer un retrait gracieux, il était en train de faire monter au contraire les enchères.
On n'est pas sûr de bien comprendre, cela dit, la stratégie de Donald Trump qui, d'un côté, dit, et depuis des mois d'ailleurs, que cet accord est le plus mauvais qu'il ait jamais connu, et en même temps il dit que les Iraniens ne respectent pas cet accord, en tout cas l'esprit de cet accord.
Oui, bah pour lui, je pense qu'il n'y voit pas d'incohérence, et malheureusement dans cette affaire, c'est son avis qui compte. Puisqu'un accord qui n'est pas respecté ne peut être qu'un mauvais accord. C'est probablement sa façon à lui de donner de la cohérence à son propos. Non, ce qui est extrêmement inquiétant dans cette affaire, c'est que comme il n'y a à peu près aucune chance pour que les Iraniens se plient à ces conditions, et de même fort peu de chance pour que les autres signataires de l'accord se joignent aux États-Unis pour faire pression sur l'Iran, Donald Trump se trouvera placé dans la situation de quelqu'un qui soit apparaîtra comme ayant échoué et avoir une image de loser et politiquement intolérable au plan intérieur américain pour Donald Trump. Auquel cas, il risque tout simplement de devoir manifester sa force. Pour moi, il y a un risque très très élevé que cette affaire tourne très très mal dans un Moyen-Orient, il n'avait pas besoin de tension accrue.
Alors il a chargé l'Iran dans son discours, Donald Trump, qualifié de régime fanatique, complice des atrocités commises par l'administration syrienne de Bachar el-Assad. Il parle à qui en disant cela? Uniquement à ses électeurs? Uniquement sur le front intérieur?
À ses électeurs, aux alliés des Américains dans le Golfe arabo-persique. Il essaye peut-être aussi de se convaincre lui-même, parce que au début de son mandat, il était prêt à coopérer avec les Russes et les Iraniens dans la lutte contre Daesh en Syrie. Il y a là une petite contradiction dans laquelle il est placé. Il n'est pas le seul à vivre avec ses conflits.
Vous diriez ce soir, François Hesbourg, qu'on a fait un pas vers la dégradation du climat au Proche et au Moyen-Orient?
Oui, on est sur un toboggan, et je ne sais pas ce qui se trouve au bout de ce toboggan, mais on avait déjà l'affaire du Qatar avec l'opposition des pays sunnites de la région. Nous avons maintenant un vrai risque de tension directe entre les États-Unis et l'Iran, non plus indirecte ou marginale.
Un mot, François Hesbourg, sur le renouvellement de la direction générale de l'UNESCO ce soir. Là aussi, il y a de la géopolitique, une élection, une nouvelle fois, on l'a vu, très politisée, avec d'ailleurs un finaliste qatari. Finalement, c'est Audrey Azoulay qui a été élue ce soir.
Oui, alors on est dans un double paradoxe. Et le candidat qatari a probablement perdu parce que entre le moment où il s'est mis sur les rangs et le moment où s'est déroulée l'élection, les partisans arabes du Qatar ont changé d'avis en ce qui concerne leurs relations avec le Qatar, assurant ainsi la victoire de Mme Azoulay. Et de l'autre côté, Mme Azoulay est désignée précisément au moment où les États-Unis et Israël se retirent de l'UNESCO, alors que Mme Azoulay est une ancienne ministre d'une puissance occidentale importante, la France, un allié des États-Unis. Et dans la presse israélienne, on fait par ailleurs remarquer, vous rappelez qu'elle est d'origine juive et marocaine. Donc oui, on est dans le paradoxe.
Merci François Hesbourg d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et pour continuer sur ce sujet de l'UNESCO, suite à l'élection ce soir de l'ancienne ministre de la Culture Audrey Azoulay à la direction générale de l'agence onusienne, voici son portrait par Nadine Epstein.
J'ai une vraie envie pour ce poste parce qu'il porte des valeurs universelles et humanistes. L'UNESCO, c'est la connaissance de l'autre, avait déclaré la candidate Audrey Azoulay. Selon elle, la mission de l'UNESCO est d'être un lieu d'échange et de dialogue qui sauvegarde les patrimoines culturels et naturels mondiaux de l'humanité, qui défend la liberté d'expression, de la presse, de toutes les cultures. Bref, compréhension et connaissance mutuelle, comme le souhaitait dès 1946 le premier président de la Conférence générale de l'UNESCO, Léon Blum. Mais aujourd'hui, la nouvelle directrice générale de l'institution va avant tout devoir gérer une aggravation du déficit budgétaire due en partie à la suspension des contributions financières américaines. Depuis 6 ans, c'est plus de 20% du budget amputé. Mais il y a aussi toutes les tensions politiques, les rivalités géopolitiques du Moyen-Orient qui tentent de s'imposer à l'UNESCO. Audrey Azoulay, quadragénaire, énarque, puis 8 ans passés au CNC, puis conseillère auprès de l'Élysée et ministre de la Culture de François Hollande. Audrey Azoulay aime se présenter comme un pont entre les deux rives de la Méditerranée, sa famille vivant entre la France et le Maroc. Son élection par les 58 membres du comité exécutif de l'UNESCO doit encore être approuvée par un vote de l'Assemblée générale de l'ONU, une pure formalité le 10 novembre pour une entrée en fonction le 15 novembre.
Nadine Epstein. Et sur cette élection d'Audrey Azoulay à l'UNESCO, vous retrouverez sur notre site un dossier complet, franceculture.fr. Le procès d'Abdelkader Merah et de Feta Malki devant la cour d'assises spéciale de Paris, fin de la 2e semaine d'audience aujourd'hui. Le frère aîné de Mohamed Merah, auteur des attentats islamistes de mars 2012 à Toulouse et Montauban, est toujours au centre des débats avec cette question, sa complicité peut-elle être démontrée? Le compte-rendu de Florence Turme.
Il l'appelle mon petit frère et le président reprend la formule pour lui faire raconter cette journée du 6 mars 2012, le jour où Mohamed Merah a volé le scooter sur lequel il mènera son équipée meurtrière. Barbe noire, cheveux longs ramassés en catogan, Abdelkader Merah s'exprime de manière plutôt décontractée, voix presque douce à l'accent toulousain. Cette journée vous a marqué, interroge le président. Pas spécialement, même si en tant que musulman, ce vol a été un moment très désagréable. J'ai été, et il le répète à 3 reprises, en quelque sorte prise en otage. Le président ne relève pas et l'accusé poursuit son récit. Nous partions acheter une veste de moto pour mon petit frère. Il me dit « arrête-toi ». Il descend de la voiture et je l'ai vu subitement passer sur ma gauche en scooter, sans casque. Plus tard, il m'expliquera « j'ai vu les clés dessus, une occasion comme ça, ça ne se présente pas 2 fois ». Abdelkader Merah insiste « ce vol-là n'a pas été prémédité ». Hausse les épaules, bien sûr, je me doutais bien qu'il allait faire des conneries, mais pas plus. L'audience patine, l'interrogatoire tourne en rond sur des détails sans impact, sur les faits reprochés à l'accusé. Au bout de 2 semaines de débat, la complicité d'Abdelkader Merah n'a toujours pas été démontrée.
Florence Sturm. Richard Ferrand n'est plus poursuivi dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Elle a été classée sans suite aujourd'hui par la justice. Le chef de file des députés de La République En Marche était soupçonné d'avoir favorisé sa compagne à l'époque où il était directeur général de la mutuelle. L'affaire avait été révélée par le Canard enchaîné en mai dernier. Mais le procureur de Brest a invoqué cet après-midi la prescription de l'action publique. L'Association nationale des victimes de l'amiante organisait aujourd'hui une manifestation à Paris. Plusieurs centaines de personnes y ont participé pour dénoncer les lenteurs de la justice. Toujours pas de procès en vue dans les différentes procédures en cours. Il y a un mois, la Cour d'appel de Paris a annulé pour la 2e fois des mises en examen dans les affaires du campus de Jussieu et des chantiers navals de Dunkerque. Reportage dans la manifestation parisienne aujourd'hui, Antoine Marette.
Louis, 65 ans. Mohamed, 63 ans. Ali.
Des prénoms et des âges, ceux de 30 victimes de l'amiante représentées par des effigies blanches, blanches comme la couleur de l'amiante, une couleur que Jean-François Borde a bien connue. Il a travaillé au sein de l'usine Eternit en Bourgogne. Il a été au contact de l'amiante entre 1971 et 2005.
L'usine Eternit de Tian, il y a des ouvriers qui étaient contents de ne pas faire comme leur papa, de ne pas aller travailler à la mine où ils sortaient tout noirs. Donc ils étaient contents qu'il y ait une usine avec un produit blanc. Mais malheureusement, c'était peut-être plus dangereux encore que la mine.
Jean-François Borde n'est pas malade, mais il vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parmi ses anciens collègues, plus de 140 sont officiellement morts de l'amiante. Il sait que les symptômes peuvent apparaître à n'importe quel moment, ceux de l'une des maladies de l'amiante, comme des plaques pleurales dont souffre Henri Degrange, 38 ans d'usine. Sa femme est décédée en 2000 d'un mésothéliome en lavant ses vêtements de travail et il réclame un procès au pénal.
Je sais que ça ne ramènerait pas les décennies de malades, mais autant moins qu'ils soient reconnus coupables, qu'ils ont empoisonné les gens et qu'ils soient jugés, qu'ils aient une condamnation. Pour nous, c'est ça l'important.
20 ans après son interdiction, l'amiante continue de tuer, 10 morts par jour en France. Et selon l'Association nationale des victimes de l'amiante, elle devrait encore tuer 100 000 personnes.
Reportage d'Antoine Marette. Je vous rappelle la principale information de ce journal, l'annonce de Donald Trump qui ne certifie plus l'accord sur le nucléaire iranien et qui se réserve le droit de le dénoncer unilatéralement. Parmi les réactions très nombreuses ce soir, celle d'Emmanuel Macron, le président français qui soutient l'accord et qui annonce envisager de se rendre à Téhéran dans les prochains mois à l'invitation de son homologue Hassan Rouhani. Et puis cette réaction à l'instant de l'IEA qui certifie que l'Iran fait l'objet du régime de vérification nucléaire le plus solide et respecte l'accord sur son programme. C'est ce que déclare le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La météo avec des températures toujours très douces pour une mi-octobre, très largement au-dessus des normales saisonnières. Le soleil sera omniprésent encore demain après-midi après la dissipation des brumes et des brouillards matinaux sur de nombreuses régions. Température maximale entre 20 degrés au nord et 30 sur le sud-ouest.